Vous écoutez RTL, première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie, en pleine forme. Sidonie, je vous laisse boire un petit peu d'eau pour démarrer l'émission. Ça va bien ?
J'ai dégluti, ça va bien Thomas, salut les curieux. Beau programme ce soir, des théories complètement folles. Bon, Jeanne d'Arc est un homme, Hitler a fini ses jours en Antarctique, et puis le Christ a été cloné, et puis bien sûr, on n'a jamais marché sur la Lune. Et oui, une poignée d'humains ont décidé de réécrire l'histoire. On va vous raconter comment et pourquoi.
Et aussi ceux qui y croient à ces théories complètement dingues, parce que c'est ça qui est fou aussi. Et puis lui aussi vivait dans un univers fantasy, c'était un artiste. On découvrira le destin et l'œuvre du peintre belge, du surréaliste René Magritte à l'occasion de cette exposition qui lui est consacrée au centre Georges Pompidou. C'est à Paris évidemment et c'est jusqu'au 23 janvier.
Et tout de suite, l'histoire du Swatting.
RTL. Alors le swatting, c'est une pratique assez hallucinante. Ce sont des gens qui sont en train en fait de faire une émission en live sur internet et puis soudainement chez eux débarquent les SWAT.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout simplement parce qu'ils ont été appelés par des très très mauvais plaisantins qui font croire qu'il y a soit un acte de terrorisme qui va se jouer, soit il y a quelqu'un qui est en train de tuer quelqu'un. Et puis en arrivant, ils se rendent compte qu'en fait rien de tout cela, c'est un joueur qui est en train de parler à sa communauté en direct.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le swatting, c'est ce mot anglais, américain, qui a fait irruption dans l'actualité française il y a quelques jours, le 17 septembre, quand un appel téléphonique a fait craindre le pire, une prise d'otage dans une église au cœur de Paris. Le swatting, c'est donc un canular malsain, nuisible, et c'est ce que l'on vous explique tout de suite avec notre invité. Bonsoir Olivier Acide.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur de la revue Sécurité et Stratégie et vous travaillez aussi pour PwC France, c'est un cabinet de conseil, ça veut dire quoi? Vous aidez les entreprises à se protéger?
Tout à fait, on accompagne, on pense souvent que c'est uniquement l'État qui assure la sécurité des citoyens, des entreprises, des organisations. Nous sommes un cabinet aussi qui sommes là pour faire des audits, des évaluations, pour mettre en place des directions sécurité. Voilà, enfin, on accompagne pour que les entreprises se renforcent dans ce domaine, notamment dans un contexte où le terrorisme s'est renforcé.
Et notamment la cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité Internet, c'est un domaine
fait,
important.
On travaille sur les problématiques de sécurité globale, c'est-à-dire évidemment il y a les problématiques de sécurité physique, mais il y a aussi les problématiques de cybersécurité. Les entreprises sont de plus en plus victimes d'attaques de hackers, un peu sujet qui se rapproche d'aujourd'hui, et donc dans ce cadre, elles sont obligées de se protéger, de renforcer leur système d'information.
Alors justement, on est dans ce thème de la cybersécurité avec le swatting, donc mot d'origine américaine. De quoi s'agit-il ?
Le swatting, c'est tiré du mot SWAT. C'est la police d'intervention américaine qui correspond. C'est une police qui intervient dans le milieu urbain, ce qui est à peu près le RAID en France. Faut pas le confondre avec le GIGN qui intervient évidemment dans les zones rurales. Donc le SWAT, donc l'objectif des gamers, c'était les gamers, vous avez évoqué, appelle le 911, qui est le numéro d'appel d'urgence américain. Et le jeu, c'est de faire intervenir le SWAT dans un contexte. Les gamers se font passer pour quelqu'un d'autre, une personne qu'ils n'aiment pas, une vengeance, ils vont faire intervenir, ils vont faire croire à une prise d'otage, à un risque d'attentat. Et donc, évidemment, quand il y a risque d'attentat, risque de prise d'otages, c'est au SWAT d'intervenir.
Il y a de nombreux cas comme ça de swatting aux États-Unis, Olivier Assis ?
Il y en a énormément.
C'est quotidien ?
Il y en a 400. Il y en a à peu près 400 par an, donc la réponse est à peu près effectivement quotidienne.
Donc pour bien comprendre, on imagine qu'on est au central de la police américaine, le 911, le 911. Ils reçoivent un appel, sauf que normalement un appel on peut le tracer, on peut savoir qui est au bout du fil. Comment ceux qui montent ce canular malsain pour se venger, si j'ai bien compris, comment font-ils ? Ils utilisent quoi ? Internet ? Des systèmes pour rester discret, pour rester invisible ?
Alors ce type de canular a toujours existé, mais effectivement, actuellement, avec le développement d'Internet et la voix sur IP, il est possible d'usurper la voix d'une autre personne. Il est possible d'usurper un ID, un numéro d'identité, et donc de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous avez des logiciels qui existent, qui peuvent s'acheter sur Internet, et donc vous allez pouvoir usurper l'identité d'une personne X ou Y sur qui vous voulez ou lui faire un canular, ou vous souhaitez vous venger, ou voilà.
Donc c'est swatter, est-ce qu'on peut appeler ça des swatters? J'adapte au swatting, des hackers.
Oui, oui, on peut appeler ça des swatters.
Ce sont forcément des as de l'informatique, il faut vraiment être très bon pour faire ça.
Non, non, il ne faut pas être très bon. Justement, je vous dis, avec le développement de la voix par IP, c'est-à-dire on peut téléphoner par Internet, il est plutôt assez aisé, malheureusement, de recourir à ce type de pratique. Vous utilisez Skype, vous utilisez le passage par la voie Internet, et donc vous utilisez un logiciel qui va vous donner la possibilité de gommer votre numéro de téléphone et de le remplacer par le numéro d'une personne à qui vous souhaitez faire une blague.
Voilà, une blague, une mauvaise blague. Donc le point de départ de ce swatting, ce sont les gamers, donc ceux qui jouent en ligne et qui se filment en direct en train de jouer. Et donc leur objectif, c'est de faire débouler au domicile de leur concurrent ou de leur ennemi cette unité d'élite américaine qui va défoncer la porte, qui va penser qu'il y a quelqu'un de dangereux à l'intérieur, et donc les autres vont assister sur leur ordinateur à cette intervention de la police en direct. C'est ça le point de départ du swatting.
On pense souvent que c'est un canular, il s'agit pas vraiment d'un canular, il s'agit surtout d'une vengeance. L'idée du swatting, c'est on pense souvent au canular, donc le truc un peu débile. Alors c'est un peu débile, mais c'est surtout
canular téléphonique.
Voilà. Mais c'est surtout une vengeance qui peut avoir des conséquences.
Ouais, une vengeance contre parfois un autre joueur qui vous a humilié lors d'une partie.
Exactement.
Ou alors ça peut être beaucoup plus grave. C'est arrivé en France. Et on a retrouvé un extrait d'un reportage de BFM TV. On est en février 2015. Voilà ce qui arrive à un joueur en direct.
C'était mardi soir. Hubert est devant son ordinateur pour une partie de jeu vidéo qu'il retransmet en direct sur Internet. Quand soudain...
Tu bouges pas, tout le monde monte les mains. Les mains.
Des policiers de la BAC lourdement armés font irruption.
Mets pas à genoux.
Le jeune homme est menotté sans ménagement, sous le regard paniqué de sa compagne, en larmes. Le joueur vient en réalité d'être victime d'un canular de très mauvais goût. Des inconnus ont appelé la police en se faisant passer pour lui.
Voilà, ces canulars malsains, ces swatting, ils peuvent aller beaucoup, beaucoup trop loin, comme le 17 septembre dernier. Ce jour-là, c'est tout un quartier de Paris qu'il a fallu évacuer.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On appelle ça le swatting, des canulars montés sur Internet et destinés à faire intervenir la police au domicile de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Des canulars malsains, bien sûr, aux conséquences parfois très lourdes. C'est ce que nous explique notre invité Olivier Acide, directeur de l'offre de conseil en sécurité pour PwC France. Olivier Acide, j'ai une petite question. Comment on usurpe le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre? Ça, j'arrive pas à bien le comprendre.
En fait, vous avez sur Internet des logiciels ou sur votre smartphone, vous avez certainement un smartphone, où vous avez des applications et là, vous allez sur l'appli. Je devrais pas trop le dire.
On va donner plein de conseils pour se protéger.
On va rester flou et au lieu, vous allez remplacer votre numéro de téléphone par le numéro d'une personne que vous connaissez, que vous appréciez guère ou à qui vous voulez faire un canular. Et donc, l'IP est modifiée et donc vous pouvez...
Mais là, on parle quand même d'applications qui ne sont pas légales et de sites qui ne sont pas légaux.
Elles sont totalement légales.
Mais pourquoi j'ai le droit de prendre le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre? À quelle occasion j'ai légalement le droit de faire ça?
Alors, je vais vous avouer que je ne le sais pas, mais ça n'a pas l'air de poser de problème. Il y a un vrai business. Et donc, quand il y a un business, normalement, ça ne pose pas trop de problème.
Ouais, c'est ça qui est effectivement assez absurde, surtout que ça peut avoir des conséquences
dramatiques
ouais. et très lourdes.
Justement, vous allez nous raconter, Olivier Acide, ce qui s'est passé
à Paris. Point important, on pense qu'on peut effacer totalement le numéro, il reste toujours des traces. Et le cas qu'on va évoquer du 17 septembre le montre, c'est-à-dire que la police a réussi à remonter
on va raconter ça, il voilà. n'y a pas d'impunité.
Alors,
les futurs swatters doivent le savoir, quoi. On remonte après.
On va reprendre l'histoire depuis le début, le samedi 17 septembre dernier. Tout commence par un coup de fil. Qui reçoit ce coup de fil?
Ben, il me semble que c'est la police.
Ouais.
C'est le numéro d'urgence. Il me semble que il est 15h47 ou 15h37. Il y a un appel. Tout de suite, les forces de police sont dépêchées. Il leur faudra une vingtaine.
Qu'est-ce qu'il croit avoir? Qui croit-il avoir au bout du fil?
Il pense avoir le prêtre. Il y a l'église de Saint-Leu, pour ceux qui connaissent, à côté des Halles. Ils pensent avoir le prêtre et le prêtre leur dit, le prêtre leur dit qu'il y a des intrus dans l'église, qui nous rappelle évidemment ce qui s'est passé à l'église du Rouvray avec inquiétude.
Et donc on pense à une attaque terroriste.
Exactement. Et donc là, directement, des forces de l'ordre sont dépêchées. Et une vingtaine de minutes plus tard, tout le quartier est bloqué, une alerte est envoyée, etc.
Ça veut dire que, par exemple, on est au Halles, le Halles c'est un quartier commerçant, on est un samedi après-midi, ça veut dire que les Halles vont complètement se vider de...
Voilà, et ça veut dire surtout qu'on crée un phénomène de panique,
bien sûr,
qui est relayé sur les réseaux sociaux, donc ce qui est démultiplié. Maintenant, avec Twitter, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est la panique totale.
Et est-ce que les médias aussi ont pas accentué un petit peu cette panique?
Je vais vous dire, les médias ont c'est terrible à dire. Alors maintenant, les médias les plus dangereux, c'est pas vous. Les médias les plus dangereux, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, Twitter est le média le plus fort actuellement en termes de résonance. C'est-à-dire que tout le monde, vous pouvez voir. C'était très intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là sur Twitter. C'était une vague, quoi. C'était vraiment le mot Saint-Leu, etc., fusillade. C'est à ce moment-là. Alors effectivement, les médias traditionnels amplifient, mais le mal est fait déjà sur les réseaux sociaux.
Il y a le fils d'un membre de l'équipe de la Curiosité qui travaille au Halles, qui a abrité dans sa boutique des gens qui étaient en pleine panique et qui lui disait que certaines chaînes d'info, BFM TV pour pas la nommer, avaient accentué la panique. C'est vrai que là on est dans un effet d'entraînement, c'est-à-dire que personne n'a encore vérifié l'info de départ, une attaque terroriste dans cette église, et pour cause, puisqu'il n'y en avait pas, puisque c'était un canular, une info qui s'est diffusée.
On est dans un contexte terroriste où, et d'ailleurs on l'a reproché en novembre pour dire que la police n'était pas intervenue assez rapidement, donc on peut pas, ils sont obligés d'intervenir rapidement et de faire ce qu'ils ont fait, donc on ne peut pas leur reprocher leur action.
Oui, ouais. Puis Twitter et l'information permet aussi de se mettre à l'abri pour les gens qui sont dans le coin, et ça a aussi un double impact. Les policiers de la BRI donc arrivent sur place dans cette église. Combien de temps est-ce qu'il faut pour comprendre que c'est un faux appel téléphonique et pour se replier ?
Je crois qu'il leur faut exactement une demi-heure, mais j'en suis pas totalement certain. C'est ce que j'ai eu comme retour. Donc c'est un temps relativement long, avec une inquiétude évidemment pour les gens qui sont dans l'église. Donc il leur faudra une demi-heure pour agir.
Alors les auteurs de ce swatting, de ce très mauvais canular, vous le disiez en amorce, ils ont été retrouvés très vite.
Très vite.
Comment ?
Bah justement, on pense ne pas, il faut le dire, aux futurs swatteurs, on remonte, on laisse toujours des traces sur Internet. Je ne connais pas de système imparable, vous laissez toujours des traces, et donc il y a une possibilité de remonter systématiquement. Alors ça prend plus ou moins de temps, mais vous remontez, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à les retrouver.
En plus, ils se sont vantés sur différents médias. Écoutez, tiens, cette interview, c'était au micro de Nicolas Burnin dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL.
On savait que l'église, ça allait marcher. On a fait ça pour montrer que juste avec un coup de fil, on peut faire basculer une ville entière, envoyer une centaine d'hommes, un hélicoptère. N'importe qui est capable de le faire. On se rend compte de ce qui a eu lieu, on l'assume. C'est comme une pièce de théâtre. On est presque les seuls en France à faire ça. On n'a aucune peur de faire ça.
Alors que risquent les auteurs et ces auteurs de canulars malsains? Comment peut-on s'en protéger? Réponse tout de suite dans la curiosité.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Toute la force du swatting, c'est en direct. Les personnes qui regardent les lives de ces streamers découvrent ce qui se passe.
La curiosité est un vilain défaut.
Je pense que les très 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 mauvais plaisantins qui appellent, ils sont en train de regarder pour se délecter de la surprise, de l'effroi de la personne qui est concernée.
Jusqu'à 22h.
C'est vraiment glauque.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité sur RTL, on est ensemble jusqu'à 22h pour découvrir des destins extraordinaires, pour revenir aussi sur des faits marquants de l'actualité et les approfondir. C'est ce que l'on fait avec notre invité Olivier Lacide, qui est conseiller en sécurité pour les entreprises, directeur de la revue Sécurité et Stratégie. On parle donc du swatting, ces canulars malsains venus des États-Unis qui consistent à faire débarquer les policiers d'élite chez quelqu'un en faisant croire que cette personne est dangereuse. Alors, il y a eu une version française qu'on racontait à l'instant, cette fausse fausse prise d'otage dans une église parisienne il y a 10 jours. Là, on va être sur un message très clair. Les deux suspects, que risquent-ils ? De la prison ?
Ils risquent de la prison, je pense qu'ils auront du sursis, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. À mon avis, ils auront l'équivalent de 6 mois avec sursis et voilà, une amende.
Il y a eu des précédents d'affaires de swatting avec condamnation judiciaire en France ?
Alors, en France, pas à ma connaissance, mais peut-être je me trompe. En revanche, aux États-Unis, il y a des sanctions extrêmement lourdes avec des swatteurs qui les Américains rigolent pas, hein, toujours en comparaison avec notre système, avec des dizaines d'années d'emprisonnement.
Parce que, pardon Sidonie, aux États-Unis, il y a des interventions, donc des SWAT, cette unité d'élite qui donne le nom à ce canular sur Internet. Il y a des interventions des SWAT qui ont été particulièrement violentes, qui se sont mal passées.
Ah ben, je vais vous donner un exemple. En 2007, dans l'État de Washington, un gamin de 19 ans a voulu se venger de son petit copain. Il a fait croire que son petit copain qui vivait dans la maison avec ses parents et sa sœur était victime d'une prise d'otage. Le SWAT est intervenu, le père a entendu du bruit dehors, a pris un couteau et sorti et s'est fait tuer.
Olivia Sid, il y a aussi aux États-Unis des personnalités qui ont été victimes de swatting.
Oui, Justin Bieber, par exemple.
Ouais. En France, il y en a eu
En France, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Pierre Arki.
Le patron de Rue 89, Pierre Arki.
Voilà, c'est ça. Oui, il y en a eu pas mal. Schneiderman, d'arrêt sur image, etc. Mmh.
Pierre Arki et Schneiderman, je crois que c'est un hacker assez connu qui se fait appeler Ulkan, qui œuvre depuis Israël.
Qui est franco-israélien, qui œuvre en Israël et qui a toujours pas été arrêté. Ça fait des années qu'il veut tous ceux qui confèrent, qui prônent, qui sont pour l'État de Palestine, qui sont contre Israël, etc. Il les menace, il leur fait des mauvaises blagues, il se venge. Enfin voilà, il est assez terrible.
Ouais, et là aussi, ça peut avoir des conséquences puisque le père de Pierre Arki a très mal supporté de l'intervention des forces de l'ordre.
Et effectivement, il a voulu faire une blague au père. On a lié son infarctus à cette mauvaise blague, sauf que l'infarctus a été quelques jours plus tard quand même.
Alors vous qui bossez dans la sécurité, vous qui bossez dans la sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ces swatteurs et du swatting ? J'imagine que vous êtes à fond dessus.
Non, je suis pas à fond dessus, mais il y a des techniques. Là, la première technique, c'est comme vous le savez, c'est sur Internet, il y a beaucoup de traces, et donc il s'agit de limiter les traces, et notamment son adresse, son numéro de téléphone. Il faut faire le nécessaire pour l'effacer. Vous avez.
Vous voulez dire, nous, on doit faire le nécessaire pour effacer nos traces ?
Oui,
c'est impossible, parce que quand on commande sur un site internet, par exemple, j'ai fait ça ce matin, j'ai commandé des vêtements pour ma fille, on me demande mon adresse, mon numéro de téléphone, sinon je ne peux pas passer la commande.
Oui, alors non, mais sur internet, quand vous allez sur Google, etc., vous, peut-être, sans le savoir, vous allez retrouver des zones où vous avez votre adresse. C'est pas en laissant vos.
Ah bon, d'accord. Voilà. Et comment j'efface ça ?
Vous allez vous demander à la CNIL. Il y a une institution qui est en France qui nous protège, qui est la CNIL.
Et, Commission nationale informatique et liberté.
Voilà.
Juste un coup de fil, on leur dit effacez mon nom.
Voilà, ils vous demandent de remplir un document le nécessaire sera fait. Il faut quelques temps pour le faire.
Bon, nous, on doit couvrir nos traces, mais vous qui travaillez à la sécurité, vous allez travailler sur quoi pour limiter le. L'action de ces swatteurs, parce que j'imagine que c'est un vrai danger.
Entreprise, vous travaillez pour des entreprises, être victime d'une action comme celle-là.
C'est vrai, on n'a jamais eu ce fait. Je vous remercie. Ça va me donner du boulot. Je vais proposer une nouvelle offre sur le sujet. Une alerte, c'est possible dans une entreprise. Je vous avoue, je n'y ai pas trop réfléchi. Il faudrait définir un scénario de crise et voir effectivement comment on peut réagir.
Eh ben, on vous a donné vos devoirs.
Merci,
c'est pas mal.
C'est
merci beaucoup, merci. Olivier Assis.
Merci.
Vous écoutez RTL.